on avait abordé déjà, puis en fait on n'a pas eu le temps de la poursuivre. On avait précisé que c'était une question très importante parce que c'est le point de discorde essentiel entre l'Église de Rome, enfin c'est un des points de discorde essentiel en tout cas entre l'Église de Rome et les Églises issues de la Réforme. Le protestantisme, on aura l'occasion d'y revenir, avait lancé le slogan « Sola fide », c'est-à-dire par la foi seule, sous-entendu le salut s'obtient par la foi seule. Et s'il est vrai que le catholicisme a toujours professé que le salut s'obtenait par la foi, il a, au cours des siècles, ajouté la foi et les œuvres. Et c'est précisément sur cet aspect des choses que la divergence de vue s'installe. Le père Giraud, quand il est venu faire sa conférence sur Luther, avait insisté sur la foi catholique dans la justification par la foi. Il avait fort habilement laissé de côté l'autre aspect des choses, c'est-à-dire par les œuvres, faisant une simple allusion aux indulgences et se refusant de développer davantage. Dernièrement, le pape a proclamé l'année sainte, c'est-à-dire l'année au cours de laquelle des indulgences sont accordées. Le christianisme au XXe siècle, ces derniers jours, reprenait la définition catholique la plus récente de l'indulgence, ce qui nous montre qu'à ce niveau-là, depuis Luther, absolument rien n'est changé. Quoi qu'ils en disent. Nous allons revenir sur ces différentes définitions, mais le salut pour l'Église de Rome est à la fois et reste toujours un salut par la foi et les œuvres. Parler d'un salut par la foi et les œuvres, c'est la quadrature du cercle. Il est bien évident que l'une des deux réalités doit prendre le pas sur l'autre. Si l'on pose que le salut se fait par la foi et les œuvres, il est bien évident que c'est les œuvres qui vont primer. Et s'il est vrai que dans la vie de certains chrétiens catholiques isolés, même éventuellement de certains prêtres, on vient juste de commencer. Donc, s'il est bien évident que pour certains chrétiens catholiques, individuellement, notamment sous l'influence du dialogue œcuménique, qui a permis une affirmation très claire du salut par la foi dans les cercles œcuméniques, car les protestants ont toujours insisté très fort sur cet aspect, et un certain nombre de chrétiens catholiques ont fini par s'y rallier. Il n'en demeure pas moins vrai que la majorité des catholiques et la théologie officielle de l'Église catholique restent toujours attachés à cette formulation qui date du Concile de Trente. Pour le chrétien évangélique, depuis que Jésus est venu et qu'il a accompli son œuvre rédemptrice par sa mort et sa résurrection, nous nous trouvons en face de ce que nous pourrions appeler un ciel ouvert. Il n'y a plus aucun obstacle entre le Seigneur et Dieu, entre le croyant et Dieu. Nous sommes réconciliés en Jésus-Christ avec le Seigneur. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je ne vais pas évidemment citer tous les textes qui sont là pour affirmer cette totale gratuité du salut. Et s'il y a des œuvres qui, bien entendu, doivent accompagner et apparaître dans la vie du chrétien, elles ne sont pas là comme une condition de salut, mais comme une conséquence de ce salut. On n'accomplit pas des œuvres pour être sauvé, mais parce que l'on est sauvé. Et parce que la grâce de Dieu, agissant en nous, nous donne la force d'accomplir des œuvres de sainteté, que l'homme, par ses propres moyens, ne parviendrait pas à réaliser. Par contre, le Concile de Trente a donné du salut, selon l'Église catholique, une définition autre. Et cette définition, la voici. La vie éternelle est accordée à ceux qui accomplissent de bonnes œuvres jusqu'à la fin et qui espèrent en Dieu. Il est tout à fait intéressant de noter qu'il n'est même pas ici question de foi. Plus loin, nous lisons ceci, la récompense sera fidèlement rendue aux bonnes œuvres et au mérite des fidèles en vertu de la promesse de Dieu. Donc, les bonnes œuvres prennent ici un caractère méritoire, ce qui fait que le salut est quelque chose qui, en dernier ressort, se mérite. Bien sûr, quand, si on disait ça à un catholique orthodoxe, si je peux employer cette expression, il réagirait quelque peu. Parce que il dirait qu'il croit, comme nous, à la puissance de Jésus pour sauver, à la grâce de Dieu pour sauver. Il dira que, à la limite même, les œuvres qui sont nécessaires au salut sont un produit de la grâce de Dieu. Mais il insistera sur le caractère actif de ces œuvres, y compris sur le caractère actif de la foi. Et dans certaines théologies catholiques, la foi elle-même apparaît comme étant une œuvre, n'est-ce pas, de l'homme. Ils sont loin, c'est vrai, de nier que le salut se fait par la foi, d'autant que les œuvres ont un but autre que celui d'accorder le salut. Car comment s'obtient le salut d'après la vision romaine? D'abord, tout part du Christ. Et là, nous sommes d'accord. De sa mort et de sa résurrection. C'est à cause de la mort et de la résurrection de Christ que l'homme peut être sauvé. Si Christ n'était pas mort, le salut de l'homme serait impossible. Et encore une fois, à ce niveau-là, nous sommes tout à fait d'accord. Mais c'est dans le comment. Comment cette œuvre du Christ devient-elle efficace que naissent les problèmes. Comment l'œuvre du Christ devient-elle efficace pour la Bible? C'est très simple. Par la foi, celui qui croit est sauvé, sans aucune autre médiation que celle du Christ. Rome, au contraire, introduit un certain nombre de médiations. L'œuvre du Christ n'est pas efficace d'une manière aussi simple. L'œuvre du Christ a d'abord besoin de la médiation de l'Église. D'où le slogan que l'Église de Rome n'a jamais renié. Hors de l'Église, point de salut. L'Église est la gérante des grâces de Dieu. Et pour trouver le salut, il est indispensable de passer par l'Église. Cette médiation de l'Église se fait essentiellement par l'intermédiaire des sacrements. C'est parce que le chrétien catholique a accès au sacrement qu'il a l'espérance et non pas l'assurance d'être sauvé. Et là, nous employons le mot espérance, non pas au sens biblique du terme, mais au sens courant.
On va presque dire l'espoir.
L'espoir, oui. Et les sacrements lui garantissent, dans la mesure où il les pratique selon ce que l'Église catholique demande, lui garantissent sauf un certain nombre d'accidents de parcours, dont le plus grave est celui de mourir en état de péché mortel, que, en fin de compte, il sera sauvé. Mais c'est le « en fin de compte », justement, ici, qui est de trop. En fin de compte, il sera sauvé, mais nous voyons que là, déjà la pratique des sacrements nous conduit plus dans une dimension d'œuvre. Les sacrements sont des œuvres, participer aux sacrements. Alors, nous sommes toujours dans une ambiguïté ici, parce que le catholique vous dira « oui, mais le sacrement n'est pas inséparable de la foi ». Celui qui s'approche du sacrement croit à la vertu du sacrement. Donc, en Jésus-Christ, en son sacrifice, qui est représenté par le sacrement essentiel, qui est l'Eucharistie. Il y a aussi la médiation seconde, dont nous avons parlé, des saints, la dernière fois, des reliques, des objets de piété, qui permettent d'accueillir des grâces. Et vous trouverez souvent dans les ouvrages catholiques le mot grâce au pluriel. Il n'y a pas la grâce avec un grand G, mais il y a des grâces. Des grâces fragmentées, des grâces limitées, qui ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour accorder une assurance du salut, mais qui doivent être conjuguées entre elles pour faire une somme qui permettra à celui qui a une réserve suffisante de grâce, eh bien, d'espérer pouvoir obtenir en fin de compte le salut. Encore en fin de compte, là nous sommes encore une fois dans une ambiguïté, parce que n'importe comment, sauf s'il se trouve en état de péché mortel au moment de sa mort, le catholique obtiendra le salut, à terme. À terme, ça veut dire dans combien de temps ? Ça veut dire dans des millions, dans des milliards d'années, ça dépend. Parce que là, justement, intervient une doctrine qui est affreuse, en mon point de vue. C'est justement la doctrine du purgatoire. Bon, la doctrine du purgatoire, elle est quelque peu, comment dirais-je, mise un peu sous le boisseau ces temps derniers, depuis le Concile Vatican II en particulier, mais elle reste sous-jacente à la doctrine du salut catholique, ce que les théologiens appellent la sotériologie. Sotériologie, comme ça se prononce. Ça vient d'un mot, de deux mots grecs, soter, qui signifie sauveur, et logos, science. Discours sur le salut. Et la proclamation de l'année sainte nous rappelle, s'il en était besoin, que la doctrine du purgatoire, même si le mot n'apparaît plus aussi clairement, en tout cas, la réalité théologique qu'il sous-tend reste un élément essentiel de cette sotériologie catholique. Rappelons ce que c'est le péché mortel. Les péchés, d'après le catholicisme, sont divisés en deux catégories, les péchés véniels et les péchés mortels. Les péchés véniels sont des petits péchés, comme on dirait, c'est-à-dire dans le fond des péchés que on peut commettre sans grave conséquence. Les petites choses que tout le monde fait, enfin les petites choses entre guillemets que tout le monde fait. Par contre, les péchés mortels, c'est vraiment les gros trucs, quoi. Là, évidemment, on comprend bien que, etc. Il y a les péchés capitaux, il y a une liste, ils sont au nombre de 7. Vous connaissez peut-être la liste. Je
me suis... Oui, Paris, l'orgueil.
Il y a la gourmandise aussi. Il y a... Capitaux. Si. Je crois que les péchés capitaux sont des péchés mortels, mais il y a plus de péchés mortels que les péchés capitaux. Les péchés capitaux, c'est vraiment les péchés énormes, quoi. Hein, ça, là, c'est... c'est-à-dire que dans les péchés mortels, c'est les pires, quoi, si tu veux. Alors, tu as tout ça, tu as... qu'est-ce qu'il y a? Il y a le...
La
gourmandise, la luxure, la gourmandise, la gourmandise.
La gourmandise, oui.
Et puis bref, enfin peu importe. Oui, la gourmandise en fait partie, oui. Alors, si vous mourrez, malheureusement pour vous, en n'ayant pas réglé... Alors, un péché mortel n'est pas irrémédiable, bien sûr. Si vous avez commis un tel péché, vous passez par le sacrement de pénitence, et bon, tout rentre dans l'ordre. Mais si vous, malheureusement, vous mourrez avant d'avoir eu le temps de recevoir l'absolution du prêtre par rapport à ce péché-là, alors là, c'est une chose terrible, parce que là, c'est directement l'enfer. C'est pourquoi le sacrement des malades, ce qu'on appelait autrefois l'extrême onction, est aussi extrêmement important, parce que ça permet aux mourants de partir dégagés des péchés mortels éventuels qu'ils pourraient encore avoir sur la conscience. Et par conséquent, d'être certain de partir par, hélas, le chemin des écoliers qui risque d'être très long, mais finalement, quand même, il arrivera au ciel en fin de compte. Ce qui, pour le catholique, finalement, est l'essentiel. Et il y a un petit détour, hélas, et c'est ça le problème, il y a un petit détour dans ce lieu qui s'appelle le purgatoire. Et ça, hélas, nous allons le voir tout à l'heure. Mais revenons justement aux œuvres. Les œuvres, en quoi interviennent, elles sont une deuxième médiation. Il y avait la médiation de l'Église, par l'intermédiaire des sacrements, à moins, on peut même prendre une autre classification, médiation de l'Église, médiation des sacrements et médiation des œuvres, plus des médiations secondes par l'intermédiaire des moyens de grâce, que sont l'intercession des saints, les grâces qu'on trouve dans les objets de piété, les reliques, les pèlerinages, etc. Nous avons vu la dernière fois. Qui permettent donc d'avoir un bagage de grâce. En effet, c'est que pour se préparer pour le voyage dans l'au-delà, eh bien, c'est un voyage extrêmement périlleux. Le catholique est sûr d'arriver au ciel, mais le chemin est drôlement semé d'embûches. Parce qu'il lui faut, en effet, traverser ce fameux purgatoire. Qu'est-ce que c'est que le purgatoire? Le purgatoire, disons pour être bref, c'est tout simplement un enfer qui ne diffère de l'autre qu'en ceci, c'est qu'on a l'espoir d'en sortir un jour. Tandis que l'autre enfer, on n'en sort jamais. C'est un lieu de tourment. Voilà la définition qu'en donne le chanoine Pouget dans son catéchisme. Ouvrez les guillemets, aussitôt après la mort, l'âme entre dans le ciel si elle est pure, ou au purgatoire si elle est en état de grâce, mais pas entièrement purifiée. Enfin, elle tombe en enfer si elle est en état de péché mortel. Voilà donc les trois possibilités qui se présentent pour l'âme au moment de la mort. Elle entre tout droit au ciel si elle est d'une part en état de grâce, c'est-à-dire après avoir été purifié de tous les péchés éventuels, mais le fait d'avoir été pardonné par Jésus-Christ, par l'intermédiaire du prêtre qui accorde le pardon au nom de Jésus, on est pardonné sans l'être. C'est toujours ça l'ambiguïté dans le système catholique. On est purifié, mais le sang de Jésus nous purifie de nos péchés, mais on n'est pas vraiment purifié quand même. Parce que précisément, c'est là qu'interviennent les œuvres. L'état de grâce, bon, on pourrait dire à la rigueur que c'est la foi, mais il manque encore la pureté de l'âme. L'âme n'est pas encore entièrement purifiée de ses péchés, c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ n'est pas suffisant pour effacer, pour purifier totalement les péchés. Il faut les œuvres. Il faut les œuvres méritoire. Il faut mériter la purification de l'âme. Et là, nous nous entrons dans un système assez juridique et assez, comment dirais-je, assez romain, quoi, finalement, c'est à peu près la vision romaine des choses. Les péchés sont dans un côté de la balance, et ça pèse dans le mauvais sens. On regarde dans l'autre, et si les œuvres, les bonnes œuvres, sont pas suffisantes pour pouvoir faire pencher la balance du bon côté, rétablir l'équilibre, eh bien, vous ne pouvez pas aller au ciel. Pas possible. Alors, de deux choses l'une, ou bien l'âme, ou bien l'homme, a accumulé déjà de son vivant sur la terre suffisamment de bonnes œuvres pour faire pencher la balance du bon côté, à ce moment-là, c'est un saint. Et on a vu, quand on a étudié justement la question de la sainteté dans la vision de l'Église romaine, que les saints, ça ne court pas les rues. Ça veut dire que le plus grand nombre, eh bien, entre dans l'au-delà avec la balance qui pèse du mauvais côté. Alors, tout n'est pas perdu pour autant. On n'a pas eu de quoi faire son salut, on trouve cette expression souvent dans la piété catholique, faire son salut dans ce monde-ci, on peut encore se rattraper dans l'au-delà. Ouf. Mais alors là, évidemment, on passe de très très mauvais moments. Parce qu'on se trouve dans un endroit qui est un lieu de souffrance, d'une souffrance qui est comparée à un feu, par les descriptions qu'en font les catholiques, donc des descriptions absolument apocalyptiques, comme le Moyen-Âge faisait et dont il était très friand. Et encore une fois, c'est tout simplement l'enfer, avec la différence que celui-là, on a au moins l'espoir d'en sortir un jour. Quand ? Eh bien, quand justement, l'âme aura été totalement purifiée. Or, justement, le problème, c'est que ça prend longtemps. Ça peut prendre des milliers, des milliers, des millions d'années, selon le poids des péchés que l'on peut avoir sur la conscience. Maintenant, évidemment, on peut précipiter un peu le processus. D'abord, parce qu'il y a les saints. Les saints, ce sont ces gens qui ont accumulé sur la terre suffisamment de mérite pour entrer directement dans le ciel. Non seulement ils ont accumulé suffisamment de mérite pour eux-mêmes, mais si par exemple la quantité des mérites, parce que tout est comptabilisé là, la quantité de mérite qu'ils ont acquise, la quantité de grâce qu'ils ont acquise dépasse ce dont ils avaient besoin pour eux-mêmes, eh bien l'excédent de mérite peut servir aux autres qui n'en ont pas assez. Alors, c'est la juste compensation, c'est un peu comme la manne dans le désert. On peut partager équitablement, fraternellement. Alors, en quelque sorte, le saint qui entre dans le ciel verse dans un espèce de trésor les œuvres méritoires qui sont en excédent pour lui, et tout ça vient former un espèce de trésor, d'ailleurs c'est le mot qui est employé dans la théologie catholique, le trésor des œuvres surrogatoires des saints. C'est-à-dire des œuvres qui étaient en excédent pour des saints. Alors tout ça s'est mis en commun. Et l'Église peut puiser dans ce trésor-là pour les donner à des fidèles particuliers. Seulement l'Église. C'est pourquoi, par exemple, on recourra à l'intercession des saints. Et ainsi, l'Église pourra décider que tel saint, ayant acquis tel mérite, celui qui priera ce saint, par exemple dans tel lieu, dans tel centre de pèlerinage, etc., recevra une indulgence. Qu'est-ce que c'est que l'indulgence ? Nous arrivons justement à la notion d'indulgence. L'indulgence, c'est la remise de la peine temporelle, c'est-à-dire limitée dans le temps, par opposition à la peine éternelle. La théologie catholique oppose dans l'au-delà deux peines, la peine temporelle et la peine éternelle. La peine éternelle, c'est l'enfer. Bon, là, évidemment, qu'on est en enfer, c'est fichu. On ne peut plus en sortir. Par contre, la peine temporelle, alors là, tout est possible en ce qui la concerne. Et l'indulgence permet de remettre la peine, une partie de la peine temporelle, en tout cas, sur la base des œuvres surrogatoires des saints. Alors, si vous allez prier, par exemple, à telle époque particulière, aux grandes fêtes, par exemple, si vous allez prier la Vierge, la fête de l'Assomption d'un tel endroit, vous avez une remise temporelle de peine, de temps de temps. À l'occasion, par exemple, de l'élection d'un pape, ce dernier va accorder une indulgence plénière, sous certaines conditions. Ceux qui feront un certain nombre d'actes de dévotion, le pape proclame, usant du droit qu'il a de puiser dans le trésor des œuvres surrogatoires des saints, il proclame que ceux qui font telle et telle pénitence, etc., recevront une remise de peine de temps. Alors vous pouvez comptabiliser. Et non seulement ça. Ah oui, en général c'est fixé. C'est peut-être pas toujours fixé. Il y a des moments où c'est fixé.
Il y a des
peut-être
moments où il proclame, et puis donc c'est plus ou moins un livre rapide du pape à tel ou tel moment, bien, il proclame l'année sainte, par exemple, là, l'année sainte, c'est l'occasion que j'avais d'y aller. L'indulgence plénière, lorsqu'il ouvre son petit vicaire, autrement, par contre, on peut avoir des indulgences, même en dehors de ces temps-là, mais en allant. Quand vous allez à Rome, vous avez
le nombre d'années qu'on gagne.
Pas toujours.
Quelquefois, oui.
Alors, par exemple, à Jérusalem aussi, aller à Jérusalem, évidemment, ça vous donne des indulgences. La croisade était basée sur justement le principe de l'indulgence. Et non seulement ça, mais par exemple, celui qui mourait en Terre Sainte en combattant contre l'infidèle. Alors là, il allait directement au ciel sans passer par le purgatoire. Mais justement, beaucoup allaient pour ça. Parce que, imaginez, ça doit être terrible pour un catholique, la perspective de mourir.
Oui.
On va se retrouver 3 millions d'années en purgatoire, à rôtir. Ça n'a rien de particulièrement enthousiasmant.
Je sais pas, mais c'est pas ça, j'ai envie de dire. Et même moi, j'aime pas la perspective du purgatoire, parce que je l'avais mis depuis le départ. Et alors, ceux qui m'ont plus.
C'est-à-dire que, en fait, c'est une chose. C'est-à-dire que beaucoup de. On a, depuis Vatican II, disais-je, on a un peu mis sous boisseau ces affaires-là. Si bien que la plupart des catholiques ne savent plus trop où ils en sont sur ce plan, je pense. Je crois que c'est surtout ça. Hein. Mais en fait, devant la mort, finalement, ils n'ont plus d'assurance. Surtout ça. Maintenant, au Moyen-Âge, c'est qu'on y croyait au purgatoire. C'était le grand débat du Moyen-Âge. Le purgatoire. Et c'est au XVe siècle que la doctrine du purgatoire a été proclamée, après tous les débats qui s'étaient prolongés pendant le Moyen-Âge. Les gars qui mouraient, qui se disaient qu'ils allaient passer tant de millions d'années en purgatoire, ça ne les remplissait pas d'enthousiasme délirant. Hein. Et c'est pourquoi ils étaient prêts à tout pour justement mériter les indulgences qui leur permettraient d'échapper à ce sort terrible.
Sur quelle thèse vous avez
l'éducation ? On va y arriver. Oui, parce qu'ils avancent des textes bibliques en plus. Oui. Alors justement, non seulement l'indulgence peut être, en quelque sorte, reçue par les vivants, mais également, on peut les transférer aux morts. D'où les prières pour. Vous avez dit le mot, on va arriver. Oui.
On paye des messes.
Absolument, on paye des messes. Et les messes. Pardon ? Alors, il y a des messes. Il y a des messes pour les morts. Les messes pour les morts, quel est le but ? Eh bien, la messe pour le mort, c'est en quelque sorte de prier pour le repos de son âme. Parce qu'évidemment, vous pensez bien que pendant qu'il est en purgatoire, il n'est pas tellement dans le repos. Alors, on prie le Seigneur d'écourter le temps où il va aller dans le purgatoire pour lui permettre de trouver enfin dans le paradis le repos bien mérité auquel il a droit.
Il faut payer.
Bien sûr qu'il faut payer.
C'est évident. Les mettre sur les morts,
plus c'est cher, plus.
Et le fait, par exemple, de donner de l'argent à l'Église est un moyen. Certains pour mériter d'une indulgence. Ceux qui, par exemple, à leur mort font don de leurs biens à l'Église catholique, eh bien ceux-là ont des indulgences très très importantes. Ce qui fait que l'Église du Moyen-Âge s'était considérablement enrichie, c'est que précisément dans cette perspective-là, la plupart des nobles, au moment de leur mort, faisaient don de leurs biens justement dans le but de voir leur peine en purgatoire être raccourcie. C'est ce qui fait que l'Église du Moyen-Âge est devenue un des principaux propriétaires fonciers en France, par exemple, ou en Europe tout entière. Finalement. Et par conséquent, on peut demander des indulgences pour les morts, etc. Ce qui fait que, dans le fond, ceux qui ont l'avantage d'avoir des enfants pieux, Ben,
Moi, j'ai une grand-mère qui est très catholique comme ça, et elle s'inquiétait, mais s'angoissait même, hein, j'ai dit à Saint-Nicolas de Lourdes, parce que nous, on était des catholiques, et en fait, elle me disait, mais c'est pas bien, et tout, puis finalement, ton argument, et qui priera pour moi quand je serai mort?
Ben voilà. Voilà.
Nous, ça nous a sauvés. Elle nous répétait ça, vraiment, elle a de dire, vous êtes des égoïstes, des, vraiment des affreux, quoi.
Voilà.
Vous allez prier pour moi quand je serai mort. Elle se sentait abandonnée seule, quoi,
complètement,
comme si
elle
allait dans l'au-delà, abandonnée, quoi.
Il n'y a pas d'assurance.
Alors,
non, il n'y a aucune assurance. Et alors, on trouve cette relation entre l'indulgence et l'argent. Et c'est ce qu'avait écœuré Luther. Le Moyen-Âge, qui était le grand siècle, la grande époque du purgatoire, où, vous savez, c'est là que je m'en parlais, je crois, la dernière fois, ou une des dernières fois, de ces... tout malheur, il y a aussi ça aussi dans la piété catholique, tout malheur est considéré comme une occasion de faire son salut. Si vous arrive une tuile, eh bien, remerciez le Seigneur, c'est que ça va vous, ça va être méritoire. Il ne faut pas se révolter en face du malheur, mais il faut offrir ses souffrances au Christ, et à ce moment-là, vous en avez des mérites. Par exemple, les gens qui souffrent, les malades, etc., offrent leurs souffrances au Christ, et ils en acquièrent des mérites nombreux qui leur permettent d'échapper aux flammes du purgatoire. C'est-à-dire que ceux qui souffrent là, ils n'auront pas à souffrir là, dans l'au-delà. C'est ça de gagner. Et alors, je disais, il y a cette... au Moyen-Âge, il y avait, vous savez, les grandes épidémies de peste qui avaient décimé un tiers de l'Europe. Et la plupart des gens au Moyen-Âge qui avaient souvent perdu des êtres chers dans cette épidémie de peste, considéraient que c'était autant de fléaux que Dieu envoyait pour, justement, préparer les gens. Donc, il s'était établi à la fin du Moyen-Âge tout un état d'esprit extrêmement morbide dans l'Europe. Une recherche de la souffrance, etc. Et c'était l'époque des flagellants, vous savez, au moment des grandes épidémies de peste. Les cohortes de pénitents qui parcouraient l'Europe en se flagellant mutuellement. Ils avaient chacun des grands fouets, puis souhaitaient les uns les autres, comme ça, joyeusement, en prêchant la pénitence partout où ils passaient, etc., invitant les gens à se joindre à eux. C'était l'époque où on portait, ça se fait d'ailleurs encore, des cilices, ces espèces de vêtements de crin qui vous grattaient la peau, etc., et même au besoin, à chaque mouvement, vous meurtrissez la chair, etc. Au Moyen-Âge, il y a des choses absolument indicibles à ce niveau-là, des gens qui s'accrochaient des espèces de crochets dans la peau du dos, etc., enfin, qui se martyrisaient, qui se flagellaient. Encore les moines font ça, encore maintenant. Et la discipline, c'est un petit fouet avec lequel le moine a charge de se fouetter tous les soirs pour se punir de tous les péchés qu'il a pu faire en journée, et qui sont là pour justement... en quelque sorte, éviter qu'il reste trop longtemps en purgatoire, etc. Et, bien sûr, il y a un autre moyen, moins douloureux, si je peux dire, de mériter l'indulgence, c'est l'argent. Et l'Église avait... Est-ce que c'était délibéré? Ça a fini par l'être. C'était évident, la nature humaine étant ce qu'elle était... Au départ, ça l'était peut-être moins, c'était peut-être un petit peu ce qui se passe encore aujourd'hui, si vous voulez, lorsque quelqu'un fait don de ses biens à l'Église, etc., d'une manière spontanée, et l'Église a dit, bon, ben ça, c'est un acte méritoire. Et puis, petit à petit, c'est devenu un marché. Donnant, le salut ou la rémission des peines temporelles, ça coûte tant. Alors, ceux qui avaient la chance d'avoir de l'argent, évidemment, passaient moins de temps en purgatoire que les autres. Alors là, dans le fond, c'était un peu la lutte des classes en l'au-delà.
Ou la lutte des classes pour l'au-delà.
Ou pour l'au-delà, oui.
Envoyez-y Marchand.
Mais... c'est ce qu'avait, à la fin du Moyen-Âge, été exploité par l'Église, des papes et même des prélats sans scrupules. Et notamment, c'est ce qu'avait été à l'origine de la Réforme. Vous savez comment le pape de l'époque avait entrepris des travaux gigantesques pour construire la basilique Saint-Pierre à Rome, qui est une des plus grandes églises du monde, sinon la plus grande, je crois, et qui avait coûté évidemment des sommes colossales. Alors il avait commencé par publier dans toute l'Europe pour que les gens fassent des dons pour cette église. Bon, ben, il avait passé le don, alors il avait publié une indulgence. Alors il disait, voilà, ceux qui donneront de l'argent pour la construction de la cathédrale, eh bien, recevront une indulgence. Et il avait envoyé des missionnaires pour prêcher l'indulgence dans toute l'Europe. Il y en avait un prédicateur particulièrement zélé qui s'appelait Tetzel. Et ce Tetzel parcourait l'Europe avec une prédication particulièrement émouvante qui se terminait par ces mots: dès que vos pièces d'argent touchent le fond de mon escarcelle, les âmes s'envolent du purgatoire. À Louis d'une prédication aussi magnifique, Luther a eu du mal à digérer ça. Déjà, il avait déjà redécouvert tout le salut par la foi, et là, ça lui a semblé inacceptable. Et le dimanche suivant, qui était le dimanche de la Toussaint, il a donc affiché sur les portes de la cathédrale de Wurtemberg les thèses qui étaient celles de la Réforme et qui ont déclenché justement la Réforme. Si bien que, si vous voulez, l'Église catholique attaquait essentiellement sur cette pratique des indulgences par le protestantisme, a été amené à mettre quelques bémols, du moins dans la pratique. Mais dans la réalité, c'est resté. Il n'y a pas de problème. C'est resté aussi dans l'esprit des gens, parce que dans le fond, c'est tellement plus facile, c'est tellement plus certain, n'est-ce pas, de payer un peu d'argent, faire un pèlerinage ou deux, à droite ou gauche, de faire brûler un cierge, parce que faire brûler un cierge, évidemment, c'est une indulgence. Embrasser l'orteil de Saint-Pierre à l'intérieur de Poitiers, c'est une indulgence. D'ailleurs, c'est mis en toutes lettres. Celui qui embrassera cet orteil aura tant de jours. C'est une question de jours. J'ai pensé 30 jours d'indulgence. Enfin, ça fait pas beaucoup par baiser, mais enfin, c'est ça prend tout. C'est pas cher. Alors, oui, c'est atroce, oui. Mais la pratique de l'année sainte que vient d'ouvrir le pape ici est tout à fait caractéristique. Le pape vient de proclamer l'année sainte. Qu'est-ce que c'est? C'est une année au cours de laquelle il est possible de recevoir l'indulgence. C'est basé sur une interprétation erronée de l'institution du jubilé qu'on trouve dans le Lévitique. Vous savez, tous les 50 ans, ont publié l'année sainte, la remise des peines. Alors, vous voyez l'assimilation que fait l'Église catholique, remise des peines, c'était les remises des dettes, surtout, pas des peines, des dettes dans la Bible, c'était. Et là, donc, remise des peines temporelles, donc des peines du purgatoire, qui sont remises sous certaines conditions, pèlerinage, des choses semblables, etc. D'où multiplication cette année des pèlerinages à Rome, etc., pour les gens qui désirent recevoir l'indulgence plénière. On a remarqué. Pardon ? C'est total l'indulgence plénière? Non, je crois pas, sans doute pas. C'est pas possible de recevoir une indulgence totale, mais enfin. Il y a différentes catégories sans doute dans les indulgences. Oui, mais ça n'a pas la même valeur que quand c'est l'année sainte. L'année sainte, ça a beaucoup plus. C'est côté en bourse, beaucoup plus.
C'est meilleur.
Comment ?
C'est la volée.
Alors le pape ouvre une porte qui proclame l'année sainte, etc. Et puis à la fin de l'année, il la ferme. Oui, c'est ça, il y a une grande cérémonie, etc. C'était évidemment l'occasion de fructueuses entreprises touristiques. Les agences de voyage de Rome, évidemment, ils s'y retrouvent. Et les églises de Rome aussi. Parce qu'il faut visiter un certain nombre d'églises à Rome. Il faut faire un tour, prier dans les différentes églises. Les églises qui sont considérées comme... je ne sais pas quel est le terme exact, mais il y a des églises qui sont déclarées comme propres à accorder l'indulgence. Alors il faut aller faire le tour de ces églises-là. Quand on a prié dans ces églises-là, bon, on a reçu l'indulgence. Alors, le christianisme du XXe siècle remarquait une chose, c'est que cette année sainte a été proclamée, comme par hasard, l'année de la 500e, du 500e anniversaire de la naissance de Luther. De l'homme qui s'était dressé contre les indulgences. Alors, de deux choses l'une, ou c'est voulu, et à ce moment-là, ça veut dire beaucoup de choses, ou c'est, ça n'est pas voulu, ou c'est une coïncidence. Mais en même temps, ça en dit long. Ça veut dire que le catholicisme, ou le pape actuel en tout cas, se moque pas mal de ce qu'ont pu ressentir les protestants en face de cette proclamation d'année sainte, cette réalité qui est vraiment aux antipodes finalement de la foi chrétienne basée sur la Bible, la foi protestante basée sur la Bible. Ah non, c'est pas tous les 50 ans. Le pape est libre de déclarer, il y en a eu une en 75, oui, de déclarer l'année sainte quand il veut, s'il estime nécessaire, puisqu'il est le dépositaire des grâces de Dieu. L'Église est vraiment médiatrice du salut. C'est par l'Église qu'on obtient le salut. Et l'Église peut absoudre qui elle veut, et on se base sur le verset de Jésus à Pierre, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, ce que tu déliras sur la terre sera délié dans le ciel. Ça c'est la base, justement, les clés de Saint-Pierre, c'est ça. Il a accès, par les clés que lui a remis Jésus, au trésor de la grâce de Dieu, de mérite du Christ et des saints. C'est-à-dire que finalement, les saints ont aussi des mérites de la même nature que ceux du Christ. C'est une différence de degré seulement. Et les saints sont presque mis sur le même pied que Christ, avec un niveau un petit peu inférieur, mais c'est la même nature. Les mérites des saints sont de la même nature que les mérites du Christ. Vous voyez, le blasphème, blasphématoire par rapport à l'œuvre du Christ, c'est vraiment la réduire, la nier l'œuvre du Christ. Et l'Église est toute puissante pour gérer ça. Elle n'a de compte à rendre à personne, pas même à Dieu. Le pape ne demande pas à Dieu l'autorisation de publier l'année sainte, il décide, parce qu'il a besoin de construire la basilique de Rome, de publier une indulgence. Il décide, pourquoi il a décidé, parce que c'est le 500e anniversaire de Luther, peut-être, je ne sais pas, pour montrer qu'il ne s'en laisse pas compter par l'œcuménisme, je ne sais pas. Alors, on pourra dire, mais sur quoi l'Église catholique se base-t-elle pour élaborer une doctrine aussi abracadabrante? Parce que vous voyez donc la complexité du salut, finalement. Le salut, en tant qu'aboutissement, est relativement simple, puisque de toute façon, il suffit de participer au sacrement d'Église et puis éviter de mourir en état de péché mortel pour finalement s'y retrouver au bout du compte, ce qui est finalement assez rassurant. Mais le problème, c'est d'échapper aux peines temporelles. Et là, alors là, il n'y a aucune assurance. Personne ne pourra jamais savoir s'il a suffisamment de mérite pour pouvoir échapper. Par exemple, les enfants de Fatima qui ont reçu le message de la dame en question se sont entendus dire que pour échapper aux peines temporelles, il faudrait qu'ils disent beaucoup de chapelets. Alors, ils ont passé leur vie à dire des chapelets. Et ils sont morts les uns après les autres dans une angoisse terrible parce qu'ils avaient l'impression de ne pas avoir dit suffisamment de chapelets pour pouvoir justement échapper aux flammes du purgatoire. Alors évidemment, c'est quelque chose d'assez abominable. Mais où l'Église catholique a-t-elle trouvé cela? Eh bien d'abord, on peut dire que c'est dans justement le contexte pagano-chrétien dans lequel l'Église a évolué au cours du Moyen-Âge, et qu'à la fin du Moyen-Âge, les théologiens de l'Église ont essayé de, comment dirais-je, d'expliquer théologiquement, de raccrocher bibliquement. C'est toujours ce qui se fait dans ces cas-là. On trouve déjà des doctrines un peu semblables dans certains apocryphes. Et c'est sans doute aussi un petit peu la base de cette doctrine du purgatoire. Certains apocryphes que même l'Église catholique considère comme apocryphes. Hein. Mais l'Église catholique... Non, même pas de théologie. Apocryphe. Par exemple, les évangiles, beaucoup d'apocalypses apocryphes en particulier. Vous savez, les apocalypses apocryphes ont été beaucoup étudiées au Moyen-Âge. Et c'est elles qui ont servi de trame de fond à toute cette espèce d'imagerie affreuse du Moyen-Âge. Vous savez, l'histoire des diables qui piquent, les damnés qui rôtissent dans les marmites avec les diables, avec des fourches à trois dents qui leur piquent, etc. Ça, vous trouvez ça dans les évangiles, dans des apocalypses apocryphes. Oui, l'islam a pu reprendre un certain nombre de choses comme ça, justement venant aussi de ces apocryphes-là. catholique des premiers siècles de l'Église, mais l'Église catholique n'a jamais reconnu officiellement la canonicité de ces apocryphes-là. Alors, au moment du Concile de Trente en particulier, il a fallu, face aux attaques du protestantisme, essayer de raccrocher à des textes bibliques la doctrine du purgatoire. Alors voilà un petit peu ce que ça a donné. Tout d'abord, on joue sur un certain nombre de mots. On écarte d'abord des textes qui sont explicites au sujet du purgatoire, au sujet de, plutôt de la, du salut, quoi, hein. Notamment, le texte le plus gênant pour la doctrine du purgatoire romaine, c'est l'histoire du bon larron. Vous savez, c'est deux larrons qui étaient crucifiés avec Jésus, l'un qui l'insultait et l'autre, au contraire, qui s'est tourné vers lui en lui disant « Souviens-toi de moi ». Alors, évidemment, on dira « Mais immédiatement la négation de la doctrine romaine du purgatoire. Parce que si quelqu'un devait aller en purgatoire, ben c'est bien ce brave homme. Admettons qu'il soit mort en état de grâce, comme dit l'Église, entre guillemets, comme dit l'Église romaine, ayant mis sa foi en Jésus-Christ, il avait quand même un sacré paquet d'années à passer en purgatoire, un gars comme lui. Parce que si lui ne va pas en purgatoire, alors qui va y aller? Mais Jésus lui dit, tu seras aujourd'hui même dans le paradis. Alors, voilà comment fait l'Église romaine jouant avec le texte. Dans le grec, il n'y a pas de ponctuation dans les textes grecs. Alors, on introduit une virgule. Et voilà ce que ça devient dans les traductions catholiques. Je te le dis aujourd'hui, tu seras, sous-entendu, un jour avec moi dans le paradis. Je te dis aujourd'hui qu'un jour tu seras avec moi dans le paradis. Sous-entendu, entre-temps, tu vas passer un bon bout de temps en purgatoire. Mais il est évident que c'est tordre le sens de ce texte. Jésus insiste bien sur l'immédiateté du salut. Tu seras avec moi. Où est Jésus? En purgatoire? Sûrement pas. Même le catholique le plus convaincu ne peut pas prétendre que Jésus est allé en purgatoire. Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Bon, un autre texte qui est très gênant. Bah, ils ne retranchent rien, ils vont te dire qu'ils ne retranchent rien.
Ils tordent
l'essence de l'écriture.
C'est très peut-être pour le nom de Pierre.
Ils introduisent une virgule à un mauvais endroit, si tu veux, pour faire dire à la Bible autre chose que ce qu'elle dit. Un autre texte, c'est l'histoire du mauvais riche et de Lazare, qu'on trouve dans Luc 16. Vous savez, ce mauvais riche qui... Alors, évidemment, là, dans cette parabole, il n'est question que de deux endroits. Il est question du sein d'Abraham, c'est-à-dire ce que l'Église catholique appelle le paradis, dans le ciel, la gloire, la présence de Dieu, et puis un autre endroit, un endroit de tourment, où le mauvais riche est tourmenté, et dans lequel il ne lui est pas possible, duquel il n'est pas possible de sortir. Il n'y a aucun lieu intermédiaire entre les deux. Il y a un immense abîme qui est infranchissable, de sorte que il n'est pas possible de passer de l'un dans l'autre. Alors là, l'Église catholique a toute une théorie subtile pour dire qu'il ne s'agit que d'une parabole et que par conséquent, la révélation n'est pas encore complète et que tout n'a pas été dit à ce sujet-là. Mais que l'Église a ensuite perçu par la révélation particulière qui lui a été donnée qu'en fait il y avait un troisième lieu, etc., dans lequel, enfin, vous voyez le genre d'interprétation. Maintenant, on aboutit à cela, je disais tout à l'heure, c'est que dans l'Église catholique, il n'y a pas de pardon de péché vraiment. Les péchés sont pardonnés sans l'être. C'est un petit peu, si vous voulez, comme un enfant qui viendrait vers ses parents lui disant « Écoute, pardonne-moi », et le père lui dirait, mais je te pardonne, et lui envoie une bonne paire de taloches. Quoi. C'est à peu près ça. Alors, justement, il y a un autre texte que les catholiques emploient aussi, c'est celui que nous trouvons dans Matthieu 12, verset 32, où Jésus parle du blasphème contre l'Esprit Saint. Il dit, voilà, celui qui parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans l'autre. Et l'Église catholique en conclut ceci, c'est que si ce péché-là ne peut être pardonné ni dans ce siècle, ni dans l'autre, c'est donc qu'il y a des péchés qui peuvent être pardonnés dans l'autre siècle. Vous voyez là, le raisonnement subtil.
Oui,
à contrario, justement. Alors qu'il est clair, d'après le contexte, que Jésus ne laisse pas supposer le moins du monde qu'il puisse y avoir des péchés qui sont pardonnés dans l'autre siècle, mais il insiste sur le fait que le pardon de ce péché-là est absolument impossible, c'est un renforcement de l'idée.
Le renforcement est trop limité.
C'est comme si vous disiez, je ne sais pas, ce que tu me dis là, je ne l'accepte pas aujourd'hui et je ne l'accepterai pas dans 1000 ans. C'est une manière de parler. Alors nous avons un autre texte, c'est Matthieu 5, versets 23-26. Jésus dit, accorde-toi avec ton adversaire pendant que tu es en chemin, de peur qu'il ne te livre à l'officier de justice, que ce dernier ne te jette en prison, dont tu ne sortiras qu'après avoir payé le dernier cadran. Ah, voilà le purgatoire. C'est, si on ne s'est pas accordé pendant qu'on était vivant avec le Seigneur, si on n'a pas mis sa vie en règle avec Dieu, on se trouve jeté dans le purgatoire, c'est comme une prison, dont on ne sortira qu'après avoir payé à le Seigneur le dernier cadran. Alors le Seigneur est une espèce de gendarme qui tient une comptabilité de tous les puits qui vous fait rendre gorge jusqu'au dernier cadran, jusqu'au dernier sou, jusqu'au dernier centime. Voilà le Dieu miséricordieux. Et voilà le Dieu finalement qui est le Dieu de beaucoup de gens aujourd'hui. Hein, le Dieu vindicatif, injuste et vindicatif. Et c'est ce qui entraîne aussi cette idée fausse que beaucoup de gens ont de Dieu. Et qui en amène beaucoup à se détourner d'un Dieu pareil, ce qui finalement n'a rien d'étonnant. Un autre texte, c'est celui qu'on trouve dans 1 Corinthiens 3, versets 11 à 15, où Paul parle de la manière dont on construit sur le fondement qu'il a posé. Il dit, moi, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et d'autres, maintenant, vont construire dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il construit. On peut construire avec des matériaux nobles, de l'or, de l'argent, ou avec des matériaux périssables, du bois, du chaume. Maintenant, le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si il a construit avec des matériaux nobles, cette œuvre subsistera. Sinon, tout brûlera. Pour celui qui, en quelque sorte, aura agi de cette manière-là, il sera sauvé comme au travers du feu. Et voilà le purgatoire. Sauvé au travers du feu. Il faut donc passer d'abord au travers du feu pour pouvoir être sauvé. Alors qu'ici, dans ce texte-là, Paul parle de quelque chose tout à fait différent. Il parle des récompenses. Dans ce sens que, il parle du tribunal de Christ. Dans ce sens que, il y a d'une part le salut de l'âme, et puis ensuite, évidemment, c'est vrai, les œuvres qui ont été faites pour Christ, dans la fidélité, eh bien, recevront une récompense. Dans ce sens qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dit Jésus. Il y aura des couronnes, il y aura des palmes, la palme du vainqueur, la couronne du vainqueur, dit Paul. Tout un ensemble de choses, le vêtement blanc, eh bien, il peut se produire que quelqu'un n'ait rien à présenter au Seigneur. Il ne perdra pas son salut, pour autant, il sera sauvé quand même. Mais il n'aura aucune récompense. Comme l'élève, si vous voulez, qui passe l'examen, il a juste la moyenne, c'est tout, il n'a pas de mention. Si tu peux prendre cette image-là, c'est un peu pareil. Et ça n'a rien à voir ici avec le purgatoire.
Et c'est là qu'on trouve notre bon larron, justement. C'est lui, le catype.
Oui, le larron et le catype. Exactement. Exactement. Aucune récompense, c'est évident. C'est évident. Or, un autre texte aussi qui, lui, serait plus... irait davantage dans le sens de l'Église catholique, c'est ce texte curieux qu'on trouve dans la deuxième épître de Pierre, où il est question de Christ qui, au moment de sa mort, est allé prêcher aux esprits en prison et qui était retenu captif depuis l'époque de Noé, etc., car l'évangile a aussi été prêché aux morts. Ce qui veut dire que, d'après l'Église catholique, Christ est allé prêcher aux âmes qui étaient au purgatoire pour leur annoncer qu'elles prennent patience, que encore quelques millions d'années, et puis que bientôt, après ces quelques millions d'années, elles sortiraient de là. Et bien évident que ce texte n'a rien... Pardon ? Non, je crois que... Non. Ce texte n'a rien à voir, n'est-ce pas ? En fait, il s'agit ici d'une référence à ces événements mystérieux dont parle la Genèse, de l'époque où il y avait ces géants sur la terre, etc. Et même si il y a encore une part de mystère, d'incompréhension que l'on peut avoir autour de ce texte, la signification exacte nous échappe encore, il faut le dire humblement, mais c'est une base beaucoup trop faible, n'est-ce pas, pour asseoir une doctrine du purgatoire qui n'est étayée par rien d'autre, pas en dehors de cela, et qui au contraire est contredite par tant et tant d'autres textes dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Romains, pour ne parler que d'elle, puisque vous savez que c'est l'Épître aux Romains qui a été la base de la réforme. C'est en lisant l'Épître aux Romains que Luther est arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait y avoir de salut que par l'œuvre de Christ seul et par la foi seule. Ça a été pour lui cette assurance extraordinaire, lui qui souffrait justement les affres de l'angoisse, enfin justement de toutes ces réalités qui lui semblaient tellement nébuleuses, purgatoire ou pas purgatoire, péché véniel, péché mortel, péché capital, etc. Et Luther était tourmenté par ces choses jusqu'au jour où soudain ça a été pour lui la réponse, eh bien la foi seule. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et il est évident que l'Épître aux Romains est une épître qui affirme ça d'une manière tellement claire que le seul texte de Pierre est grandement insuffisant pour renverser ça. L'Église catholique a bien senti la faiblesse de son argumentation biblique et le Concile de Trente a été amené à recourir à un autre artifice. Dans l'Église catholique du Moyen-Âge, qui était une église latine, où le latin était la langue des clercs. Les clercs, ce n'était pas simplement les gens d'église, mais je dirais de tous les lettrés de l'époque. Les médecins parlaient en latin, voire Molière par exemple, les avocats, les juristes, enfin tous les gens instruits parlaient en latin. Si bien que, bien sûr, on lisait la Bible en latin. Latin, dans la traduction de saint Jérôme du IVe siècle, qu'on appelait la Vulgate. Lorsque la réforme a eu lieu, c'était dans le courant de l'humanisme, c'est-à-dire la redécouverte de l'antiquité gréco-latine et au-delà hébraïque, on a commencé à lire la Bible dans les langues originales. Luther, par exemple, a appris l'hébreu pour pouvoir traduire la Bible en allemand. Il a utilisé pour la traduction du Nouveau Testament l'édition du Nouveau Testament grec d'Érasme, l'humaniste qui avait redécouvert les textes grecs du Nouveau Testament, et la redécouverte de ces textes-là a aussi permis la réforme. Parce que la Vulgate contenait un certain nombre d'erreurs de traduction, par exemple le fameux Gratia plena dont nous avons parlé en ce qui concerne la Vierge, pour ne parler que de cela, donc pleine de grâce, au lieu de à qui une grâce a été faite, ce qui, vous l'avouerez, n'est pas tout à fait pareil. Et le catholicisme de l'époque de la Réforme a bien senti que là il y avait une faille grave. Et c'est pourquoi le Concile de Trente a proclamé que la seule version autorisée et canonique dans laquelle, qui servirait de base pour étayer la foi d'Église, serait la traduction latine de saint Jérôme, la Vulgate. Or, la Vulgate contenait un certain nombre de livres que l'Ancien Testament hébraïque ne contenait pas, mais qui étaient des traductions que saint Jérôme avait faites, parce qu'au départ, le pape lui avait donné un manuscrit grec de la version des 70, la version des 70, Et saint Jérôme, qui était un homme scrupuleux, avait voulu remonter du grec à l'hébreu. Après, il avait appris l'hébreu aussi avec un rabbin de Bethléem. Mais comme le pape lui avait donné l'ordre de traduire le manuscrit grec, il a fait cette découverte que finalement, il ne retrouvait pas un certain nombre de livres qui étaient dans ce manuscrit grec, dans la version hébraïque qu'il avait entre les mains. Il n'y a aucune d'ailleurs autre version hébraïque avec laquelle il ait pu entrer en contact. C'était par exemple des livres comme les deux livres des Maccabées, le livre de Judith, le livre de Tobie, le livre de la sagesse de Ben Sira, d'autres encore. Et Jérôme est arrivé à la conclusion que, bien ma foi, c'est sans doute que ces livres-là n'étaient pas inspirés. Alors, parce qu'il avait reçu le mandat de traduire le manuscrit que le pape lui avait donné, il les a quand même traduits, à partir du grec, mais il les a mis dans une place à part, à la fin de sa traduction, en précisant qu'il n'était pas inspiré. Et ça a été, grosso modo, l'Église, en fait, s'était jamais prononcée sur ce problème-là. Mais enfin, grosso modo, jusqu'à cette époque-là, on ne considérait pas les apocryphes comme inspirés. Et le Concile de Trente, soudain, a fait une découverte géniale. C'est que dans le deuxième livre des Maccabées, chapitre 12, il est question d'une bataille qui avait eu lieu entre les Juifs et les Syriens, et un certain nombre de soldats juifs, pieux, les fidèles de Dieu, étaient tombés au combat. Leurs camarades, après la bataille, étaient venus pour les enterrer, et après les avoir enterrés, ils avaient offert des sacrifices à Dieu pour le repos de leur âme. Formidable. Voilà, enfin, le texte biblique qui faisait défaut, que l'on cherchait et qu'on a enfin trouvé. Seulement, il y a un problème, c'est qu'il n'était pas au canon. Qu'à cela ne tienne, un décret du Concile de Trente décide qu'à partir de maintenant, les livres qui se trouvent dans la traduction de saint Jérôme sont considérés comme inspirés. Certes, à un degré un peu moindre que les autres, c'est pourquoi on les appelle des livres deutéro-canoniques, c'est-à-dire faisant partie d'un deuxième canon. Et c'est pourquoi, par exemple, l'Église catholique vous dira que le canon de l'Église n'a été fixé définitivement qu'au Concile de Trente. La raison pour laquelle ces livres ont été canonisés, entre guillemets, au Concile de Trente, et il y en a une seule, c'est parce qu'il y avait ce passage-là. Évidemment, il fallait prendre le tout. Il ne fallait rien prendre. Alors on a décidé de tout prendre, y compris l'histoire burlesque de Daniel et du dragon, les histoires abracadabrantes, Suzanne et les vieillards, et toutes ces choses-là, qui sont passées dans l'ensemble. Alors, finalement, à quoi aboutissons-nous en ce qui concerne le salut? Salut par la foi et par les œuvres. Mais finalement, les œuvres en viennent à occulter la foi. Et ce sont les œuvres qui prennent le pas sur la foi. Si bien que le catholique, face à la question essentielle, finalement, c'est-à-dire la question du salut, n'a aucune assurance. Il se trouve en face d'un fougis, d'un fratras, d'affirmations totalement contradictoires. Il vit dans une crainte perpétuelle qui l'amène à rester fidèle à l'Église, à pratiquer les sacrements, à pratiquer des œuvres que l'Église demande, des pèlerinages, des aumônes diverses, l'Église bien sûr, dans le but que je veux dire, on ne sait jamais, vaut mieux faire plus que moins dans ce domaine-là. Et jamais sûr d'en avoir fait assez. Donc, le catholique sera un homme qui sera toujours dépourvu d'assurance. Et quand on lui affirme que l'on a la certitude d'être sauvé, c'est quelque chose qui lui semble aberrant. Parce qu'il dit, mais alors, c'est un orgueil démesuré. C'est donc que vous avez déjà acquis le stade de la sainteté qui vous permet de dire que, bien ma foi, vous êtes arrivé. Alors que c'est au contraire, et d'ailleurs la doctrine des réformateurs c'était très clair, c'est au contraire le signe de la plus grande humilité, celui de savoir que par soi-même on est absolument incapable de rien, et que tout vient de Dieu, que la réponse de l'homme est la seule réponse de la foi, et qu'en dehors de cela, il ne peut rien faire pour son salut. Et c'est pourquoi un des slogans, justement, des réformateurs était « Soli Deo Gloria », à Dieu seul la gloire. Voilà ce qu'on peut dire sur cette doctrine du salut en milieu catholique, et finalement, l'Église catholique, au terme de ses études, apparaît, comme nous le disions, comme une Église finalement pagano-chrétienne, dans laquelle il y a des éléments chrétiens, mais où il y a des éléments païens qui se mêlent, qui par conséquent obscurcissent le plan et le dessein de Dieu. Elle apparaît également comme une Église impériale, c'est un aspect qui est particulièrement désagréable aux chrétiens évangéliques, comme une Église sûre d'elle-même, souveraine, qui se considère comme la manifestation visible de Dieu sur la terre, en quelque sorte, le substitut de Dieu sur la terre, du Christ en tout cas sur la terre, et qui ramène tout à elle, et qui entend établir finalement un règne terrestre, faire en sorte que le règne de Dieu vienne par elle sur la terre. Et ceci, évidemment, étant aux antipodes de la vision biblique de l'Église, nous sommes ici dans le contexte d'une Église puissance et non pas d'une Église signe, d'une Église témoin. C'est au nom de cela que l'Église du Moyen-Âge, par exemple, cherchait à contraindre les hommes et que l'acceptation des droits de l'homme, par exemple, et de la liberté de conscience et date finalement du Concile Vatican II seulement. Jusqu'alors, la doctrine officielle de l'Église, c'était que l'Église avait le devoir de contraindre les gens à marcher dans ce qu'elle considérait comme la vérité, et qu'il ne devait y avoir de liberté que pour la vérité, et aucune liberté pour l'erreur. Ce n'est que sous la pression des événements qu'elle a abandonné cette prétention incroyable. C'est donc vraiment l'Église puissance, avec tous les attributs de la puissance, la pompe, la liturgie, le grandiose, le somptueux, les cathédrales, etc., les liturgies à grand spectacle, etc. Et ceci, justement, dans le but de contraindre les hommes. Maintenant, l'Église catholique, si on pouvait étudier son évolution, peut-être ce serait bien de le faire. On fera peut-être notre prochaine étude là-dessus. Pour ça, le temps est écoulé, on va arrêter là, peut-être. Ça, je prendrai ce dernier point la prochaine fois avant d'aborder le protestantisme. Est-ce que vous avez des questions à poser rapidement sur la question du salut ?
Et finalement, même pour ceux qui ont péché mortel, ils disent éventuellement que jamais ils savent si dans les derniers instants ils ne repentent pas.
Oui.
Et, en fait, finalement, il y a très très peu de. D'après eux, enfin, après lui, en tout cas dans son christianisme, il y a très peu de gens qui sont perdus.
Oui.
En fait. Tout le monde est sauvé, sauf vraiment celui qui au dernier moment, et encore, il a l'air de dire, qui sait ce qui peut se passer dans son
cœur,
qui finalement, à la limite, c'est super exceptionnel, quoi.
Oui, n'empêche que pendant ce temps-là, il faut quand même aller faire un petit détour en purgatoire.
Non, c'est pour dire quoi, que c'est vachement rassurant, que finalement, personne n'est
oui,
perdu.
Oui, c'est rassurant, et en même temps, ça ne l'est pas, quoi. C'est angoissant et rassurant en même temps.
C'est-à-dire qu'en fait, les gens, quand même, sont, moi, je pense que vous êtes rassurés dans le sens qu'ils ne s'inquiètent pas trop, quoi. Ils se disent, ils ne sont pas perdus.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Ils ne font pas d'efforts, alors, de dire,
c'est ça.
On verra plus tard, quoi.
Et en même temps, c'est extrêmement dangereux parce que. Justement, la doctrine biblique est le contraire de ça.
Ouais.
Et énormément de gens vont en enfer en croyant aller en purgatoire.
Ils sont angoissés parce qu'ils n'ont pas l'assurance d'être sauvés, mais en même temps, ils font pas vraiment
l'effort
nécessaire.
C'est horrible. Je passais par là, c'est pas
en purgatoire.
Non, mais pour arriver au chemin de salut,
ça n'a pas d'aide. On est
sorti,
quoi,
c'est bien.
Sorti, mais il y a
Oui, tout ce qui concerne toutes ces choses-là, c'est pour avoir des indigents.
Et finalement, c'est le point de départ et le point d'arrivée qui sont complètement différents. Le catholicisme, c'est pour être peut-être à jour sauvé, tandis que la réforme, c'est parce qu'on est sauvé, alors qu'on mène une vie chrétienne.
Tout en découle, oui.
C'est vrai. Ah oui, ça c'est...
Le biais tordu.
La bénédiction...
Le biais tordu, oui.
C'est pas...
Si, ça a aussi une valeur.
C'est encore une valeur.
Si, ça va une
valeur d'allégeance
également, oui.
À la ville, à Rome et au monde.
Il donne une bénédiction, il apparaît au balcon du palais du Vatican, il bénit la foule, etc. Et ça, ceux qui sont là, et puis ceux qui écoutent, par exemple à la radio ou tout ça, à la télé, reçoivent aussi l'indulgence.
À la vidéo.
Je vais dans cet article que la messe à la télé n'est pas considérée comme valable. Cette bénédiction au vie et sans vie, je ne sais pas quoi,
ah oui, c'est ça.
Est valable.
Oui, d'accord.
Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe.
Il y a des
brouillages
dans les
ondes. Non, mais comme il décide ceux qui, comme il décide ceux qui valent.
C'est l'arbitraire.
C'est l'arbitraire. L'Église choisit complètement ce qu'elle veut. Comment ?
C'est parfait, oui. Finalement, c'est les hommes qui décident.
Absolument. Non, absolument. Oui. Dieu n'a rien à voir, il n'est pas consulté dans cette affaire, il n'a pas son mot à dire.
C'est une dictature.
Le Christ est revenu au ciel, et maintenant, en quelque sorte, tais-toi. C'est nous maintenant qui... C'est nous qui décidons, à ta place. Tu n'es plus là maintenant, bon, quand tu reviendras, on verra ce qui se passera, mais pour le moment, c'est nous qui faisons la loi ici. La théologie catholique est tellement compliquée que pour la connaître vraiment, il faut l'avoir étudiée à fond.
On la connaît même beaucoup plus que la théologie catholique.
Sûrement, oui.
Donc maintenant, vous
voyez, de toute façon, les prêtres catholiques vous se gardent bien d'évoquer tout ce que vous
bien sûr. Mais n'empêche que c'est toujours dans les textes. Et en tout cas, ils sont tenus d'y croire. Tous n'y croient peut-être pas, mais ils sont tenus d'y croire.
Oui, se gardent bien avec les autres de l'en parler.
Sûrement. Mais tout le mal qu'on a eu. Qui était là, vous étiez là plusieurs d'entre vous là, pour leur faire parler du sacrifice de la messe quand on a parlé de l'Eucharistie à la dernière réunion œcuménique. Il a fallu les pousser dans le retranchement, il a fallu que Philippe sorte Vatican II, lise le texte noir sur blanc pour qu'ils finissent par reconnaître qu'il y avait sacrifice au moment où ils faisaient la messe.
Ouais.
Ben non, mais il la cache.
Il la cache.
Il la cache pour la rendre plus acceptable.